Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Louis.
Bonjour Richard, ravi de vous retrouver ce matin. 400. C'est le nombre de jours à tenir avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron qui devrait se terminer le 14 mai 2027. Je dis devrait, car avec lui on ne sait jamais ce qui peut se passer et il serait enfin temps qu'il parte. Lui qui aura tant fait de mal à la France et permis aux dirigeants mondiaux de prendre plaisir à nous mépriser. Et sur ce thème, Vincent Hervouette fait une analyse très juste.
On est dans une situation qui est assez paradoxale, où on a un président qui est évidemment en fin de règne, ça ne vous a pas échappé, qui est dans une situation politique qui est impossible, dans une situation financière qui est difficile, et donc le monde qui est assez malveillant, les gens ne nous font pas de cadeaux, s'essuient volontiers sur ce paillasson ouais. qu'est la France aujourd'hui.
Oui, très juste, car le dernier affront fait à notre président est envoyé par Donald Trump lui-même.
J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. J'ai dit, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir de l'aide dans le Golfe, même si nous sommes encore en train de laisser des traces historiques.
Certes, c'est violent, et honnêtement très malvenu quand il s'agit de moquer le président de notre pays. Mais cet homme a semé tellement de haine et de rejet autour de lui qu'on n'en a même plus la force de le défendre, comme le résume cette intervention de Barbara Lefebvre sur RMC.
J'adore ce génie clownesque de Trump. Moi franchement, si on avait d'autres chefs d'État qui pouvaient parler comme ça, on se marrerait au
même
moins.
Même si on évoque la vie privée.
Mais on n'est pas là pour rigoler.
Ah non, c'est pas la vie privée parce qu'on a tous été témoins de quand il s'est pris un revers de la droite, donc à la sortie de l'avion.
De s'en moquer entre chefs d'État, est-ce que c'est vraiment la hauteur?
Écoute, je pense que Emmanuel Macron ne se prive pas du haut de sa superbe et de sa prétention mégalomaniaque d'attaquer Trump.
Dans sa vie privée,
non, mais il n'a jamais parlé de Mélania.
C'est jamais mythiquement, oui, c'est jamais moqué de sa coiffure. De son teint orange.
C'est un peu mesquin.
Oui, aussi. On est en train de le faire aujourd'hui.
Mesquin.
On peut le faire aussi.
Bien sûr, oui. De toute façon, pour moi, celui qui ruine la... Moi, je suis française. Je ne suis pas américaine, d'accord ? Moi, je suis française. Celui qui ruine la France, qui fait honte aux Français, c'est Emmanuel Macron. Donc moi, tous ceux qui se foutent de Macron, j'applaudis des deux mains, d'où qu'ils viennent.
Et de son côté, le président du Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, enfonce le clou.
Donald Trump ne fait que tirer les leçons, mais tout le monde la tire. Poutine avec sa table à rallonge, etc., c'est les mêmes choses. Nous n'allons pas dérouler le tapis rouge à un mec qui marche sur son propre peuple et qui se prend en pour un aigle alors que ce n'est qu'un poulet. Point. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Malheureusement, quand on a perdu la souveraineté, on est devenu un pays de second rang.
Un président qui va profiter de sa dernière année pour tout saccager et fera surtout en sorte qu'on se souvienne de lui. Et pour ça, il faut laisser des traces. Le choix ne manque pas, mais la plus visible est sans doute ces affreuses éoliennes inutiles et hors de prix que le gouvernement multiplie à vitesse grand V.
L'économie Roland Lescure et la ministre déléguée à l'énergie Maud Bréjon étaient en Vendée ce jeudi. Objectif, la relance des appels d'offres pour développer l'éolien terrestre et en mer. Hier, Sébastien Lecornu proposait d'utiliser les recettes fiscales supplémentaires générées par la flambée des prix du pétrole pour électrifier cette économie. La France et ses 60% d'énergie fossile importée a pour ambition de faire tomber cette dépendance à 40% d'ici 2030.
Ça continue. Stratégie assumée de long terme de ce gouvernement qui, malgré l'évidence, ne reculera pas. Bien au contraire, comme ce député macroniste qui appelle à acheter une voiture électrique face à l'explosion des prix du carburant.
Ce que nous faisons maintenant depuis très longtemps, c'est que nous essayons de soutenir l'investissement pour sortir la France de sa dépendance aux énergies fossiles. C'est ce qu'on a fait avec le plan Roland.
Oui, mais là, il y a une urgence.
C'est à long terme. Non, si demain vous allez acheter une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique, ça a un effet extrêmement court terme.
Les Français n'ont pas tout changé de voiture d'ici le week-end de Pâques.
Et ce même député, quand on lui demande s'il a lui-même acheté une voiture électrique, histoire de montrer l'exemple, sa réponse n'étonnera personne.
Vous avez quoi comme voiture ? Vous êtes à l'électrique ou pas ?
Non.
Faut y aller vers la transition, monsieur le député.
Mais j'ai une pompe à chaleur.
Passer à la transition. Si. Oui.
On en a déjà vu des faux culs, mais lui en est une synthèse. Michel Audiard doit regretter de ne plus être là aujourd'hui, tant ces hypocrites donnent de l'inspiration à tous les humoristes. Plus sérieusement, on a vraiment l'impression que ces gens-là misent systématiquement sur le mauvais cheval, l'énergie étant celui qui nous coûte le plus cher, comme en témoigne cette intervention de Philippe David sur CNews.
Au Brésil, ils sont
très peu tributaires du pétrole. Pourquoi ? Parce qu'ils roulent à l'éthanol. On les voit, vous voyez, E85, c'est de l'alcool de canne à sucre au Brésil. En France, on peut en fabriquer. C'est de l'alcool, en général, de betterave. Mais on peut faire avec d'autres produits. Ça aurait évité de mettre des millions d'hectares en jachère. Ça aurait permis à nos agriculteurs de continuer à travailler, d'avoir une filière énergétique française et de ne dépendre de personne. Mais on n'a rien fait pour l'éthanol, mais alors que c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, vous avez une voiture essence, vous prenez rendez-vous, on vous boîtier, ça coûte entre 500 et 1000 euros, on vous le reprogramme. Mais pourquoi n'a-t-on pas fait comme le Brésil d'avoir une politique énergétique? Ça, c'est quand même une question à laquelle je n'ai pas la réponse.
Et les conséquences risquent d'être bien plus lourdes à supporter que la hausse des prix que nous subissons actuellement. La porte-parole du gouvernement prévient. D'autres mesures pourraient être prises en cas de pénurie.
Pour autant, si ces problématiques d'approvisionnement, même minimes, venaient à se présenter devant nous, alors nous devons être prêts à avoir réfléchi à un certain nombre de mesures qui permettent d'économiser l'énergie consommée et spécifiquement le carburant.
Et ça sent le confinement énergétique. Bref, dans 400 jours, nous aurons donc le choix de tous les virer, démocratiquement parlant. Et la semaine dernière, je parlais de ces alliances politiques entre le centre et la gauche pour rester au pouvoir. Et côté centriste, on ne perd pas de temps pour réunir ses alliés. Et qui trouve-t-on parmi ses alliés ? DLR. Tiens, tiens, quelle incroyable surprise.
J'ai découvert aujourd'hui, il y a eu un déjeuner sans tarir de secret avec Gérard Larcher, président du Sénat, qui nous a expliqué qu'en fait, ça fait 3 mois qu'il est réuni autour d'une table Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Bayrou, tous les candidats qui sont susceptibles, tous les chefs de parti qui sont susceptibles de postuler à la présidentielle.
Tous les chefs de parti de la droite et du centre.
De la droite et du centre.
Donc sans les reconquêtes et sans les socialistes,
absolument.
Tout ce qui se trouve
au milieu. Avec l'idée de se mettre d'accord pour qu'il y ait un seul candidat sur la ligne de départ. Parce que c'est quoi la leçon des municipales ? Bah, c'est que les extrêmes sont super hauts et que si vous avez une course de petits chevaux avec 15 candidats sur l'arc de la droite et du centre et à gauche, ça ne va pas le faire. Et donc du coup, tous ces gens-là discutent et on va avoir une bataille, tout le monde sera candidat et à la fin, bah, ça se rangera derrière le meilleur. Est-ce que ce sera une primaire ? Est-ce que ce sera les sondages ? Mais il y a des discussions très avancées pour faire en sorte que sur l'arc de la droite et du centre, il y ait un seul candidat.
Ça en devient presque lassant. Voir ces fausses oppositions se rallier en période d'élection donnerait presque envie d'arrêter de voter pour ne plus participer à ce cirque. Surtout quand on voit ce même système promouvoir ceux qu'il feint de combattre aujourd'hui, comme Rima Hassan, qui était rapporteuse à la Cour nationale du droit d'asile il y a quelques années.
Je m'appelle Rima Hassan, j'ai 29 ans, je suis d'origine palestinienne et je suis originaire du camp de Nélab qui est installé dans la banlieue d'Alep, en Syrie. Je suis arrivée en France via la procédure du regroupement familial, donc c'est ma mère qui était arrivée dans un premier temps en France. À force de démarches administratives, elle a réussi à nous faire venir mes 5 frères et sœurs et moi. Donc aujourd'hui, je suis rapporteure à la Cour nationale du droit d'asile, donc c'est la juridiction qui va statuer sur les recours formulés contre les décisions de l'OFPRA. L'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui est l'administration en France qui va statuer sur les demandes d'asile qui vont être déposées sur notre territoire. Et en parallèle, je préside l'Observatoire des camps de réfugiés qui a vu le jour il y a 2 ans et demi et qui participe à sensibiliser, étudier et enquêter sur les camps de réfugiés à travers le monde.
Qui il sera bon le jour où tout ce système s'effondrera, où tous ces gens seront chassés de leur poste, mais ça risque de demander beaucoup de courage, car la violence du système est totale quand il s'agit de se défendre. Un député tente en tout cas de révéler au grand public cette hypocrisie, Charles Alloncle. Je ne vais pas revenir sur les dernières auditions absolument accablantes, mais un extrait en particulier révèle le double jeu de ces gens censés nous informer ou nous divertir, comme Nagui.
C'est votre émission N'oubliez pas les paroles qui date du 26 février 2025. À cette occasion, vous avez sévèrement taclé Fanny, une candidate arboricultrice de profession qui projetait d'acheter un van aménagé, je pense que vous vous souvenez de la séquence de type diesel, pour aller travailler, lui permettre de réaliser son travail et ses saisons aux quatre coins de la France. Vous lui avez asséné en plateau, en direct, je cite, « Si elle connaissait le principe de sauver la nature et la planète avant de l'inciter à choisir un mode électrique, alors suite à cette séquence, vous savez, mais beaucoup l'ont considérée comme humiliante pour Fanny, cette candidate. Vous avez fait l'objet de critiques nourries à la télévision comme sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a des animateurs comme M. Hanouna qui vous a qualifié de donneur de leçons. Les réseaux sociaux en ont aussi, dans la foulée, profité pour publier un certain nombre de photos de vos dépenses somptuaires. Il y a des photos à Saint-Tropez où vous vous trouvez sur un yacht, dont on doute d'ailleurs qu'il soit zéro émission. Je crois qu'un yacht produit en moyenne 20 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 10 000 voitures, vous voyez, à peu près en ordre d'idée. Vous voyez, entre vos voyages, probablement en jet, vos séjours Tropézien, je pense que c'est probable que votre bilan carbone soit supérieur à celui de cette candidate arboricultrice Fanny.
Prendre de la hauteur, du haut de sa tour d'argent, et mépriser le petit peuple. C'est ce qu'ils savent faire de mieux, et ce n'est pas cet archivre de Nagui qui dira le contraire.
Il y a une piscine dans ta maison ?
J'ai une espèce de grosse baignoire en plein air, oui.
Top, cool !
Oh ouais, c'est tout moche.
Et t'as les serviettes de bain, il y a le guépard dessus.
Et ça, c'est service public.
Ouais.
Ça, c'est service public.
Tu sais, le service public.
Il m'a permis beaucoup de choses, le service public.
Il est en train de vous dire, madame, monsieur, qu'il est devenu très riche grâce au service public.
Et il n'était pas le seul.
C'est beau. Et je disais que ce système pouvait se montrer violent. Quand il s'agit de se défendre, c'est vrai. Il peut tricher, frapper, voter des textes liberticides comme pendant le Covid, piétiner la liberté d'expression quand ça l'arrange ou effacer une commission d'enquête trop accablante pour lui. C'est d'ailleurs ce dernier risque qu'évoque notre chroniqueur Arthur de Vatrigan, qui s'est entretenu avec Charles Alloncle pendant plusieurs heures.
J'ai fait un entretien de 2 heures avec lui et à la fin de l'entretien, toutes les révélations, tout ce qu'il a raconté me paraissait nécessaire et indispensable. Donc de 4 pages, je suis passé à 16 pages. Mmh. J'ai décidé de le mettre en une parce que j'ai découvert que le sujet du pluralisme qui m'intéressait au départ faisait bien pâle figure à côté d'un système que je peux appeler un milieu qui ressemble furieusement à un système mafieux avec des menaces, des pressions, des conflits d'intérêts et avec le risque que tout le travail qui a été fait lors de cette commission disparaisse.
Pourquoi il pourrait disparaître ?
Parce que cette commission, il va y avoir un dossier, une conclusion, un rapport qui est rédigé par Charles Alloncle. Pendant 3 jours, ces conclusions vont être disponibles dans une salle, surveillées, pour que tous les membres de la commission puissent le consulter. Ils n'ont pas le droit de prendre de photos, ils n'ont pas le droit de l'emporter, ils doivent le consulter. Et ensuite, ils doivent voter. Si la majorité vote contre, tout doit disparaître. Il ne doit pas être publié, les vidéos doivent être effacées, les comptes rendus effacés, et tout ce qui a été tout ce qui a été révélé, écrit,
toutes ces semaines,
ne peut pas être utilisé.
C'est arrivé avec les syndicats. Avec les syndicats, c'est arrivé une fois,
il y a 15 ans.
Une dizaine d'années. On n'a jamais eu connaissance du rapport.
Et cette une du magazine L'Incorrect n'a visiblement pas plu au président de cette commission d'enquête parlementaire, Jérémy Patrier-Lettus.
Moi, j'ai été choqué et indigné de voir le rapporteur se comparer la semaine dernière à Émile Zola, en faisant la une d'un magazine où il reprenait la célèbre formule « j'accuse ». Je viens d'une famille
Quand Zola défendait Dreyfus.
Je viens d'une famille qui a été marquée par l'antisémitisme, par l'histoire de la Shoah. Et je crois que comparer l'audiovisuel public à l'affaire Dreyfus, c'est indécent.
Bon, un président réglé ses comptes avec son propre rapporteur de sa propre commission d'enquête, c'est beau. Et à ce sujet, je vous invite très fortement à retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie le Restons Courtois de lundi dernier, dans lequel Arthur de Vatrigan enchaîne les révélations sur ce qu'il appelle lui-même cette mafia de l'audiovisuel public. Les extraits étaient bien trop nombreux pour en diffuser ce matin, mais l'émission en intégralité est en ligne. Et forcément, voir une telle gabegie être révélée aux yeux des Français réveille les envies de censure de certains, comme Patrick Cohen.
Mais est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut fermer ces news ?
Tu fais partie de ceux qui pensent que dans l'état actuel, c'est purement factuel, je pense que CNews est hors la loi.
Ah bon ?
La loi de 86 prévoit un pluralisme interne dans chaque chaîne de télévision. C'est vrai. Et cette loi de 86, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons et que je ne détaillerai pas, elle n'est pas respectée aujourd'hui par CNews.
L'hôpital, la charité, tout ça. On se retient d'éclater de rire, mais on pourrait vite déchanter avec ce rapport qui pourrait bel et bien être enterré par cette caste médiatique qui règne sur la quasi-totalité de la presse française. Reste à savoir si leur plan fonctionnera. Comptez sur nous pour suivre ce dossier.
Merci beaucoup,
Merci Richard. Richard.
Ligne droite, l'analyse.
Et cette analyse, c'est Régis Le Sommier qui va nous la fournir en nous parlant de l'Iran. Bonjour Régis Le Sommier.
Bonjour Richard.
Voilà, merci beaucoup de venir mercredi plutôt que lundi, mais avec Donald Trump, il y a une innovation chaque demi-heure et un coup de théâtre chaque soir. Donc, il avait promis d'être en mesure de détruire la civilisation iranienne, de les renvoyer à l'âge de pierre, ces animaux. Je ne fais que citer le président Donald Trump, que sa mèche pousse toujours plus longue. Et il a décidé hier de suspendre l'apocalypse qu'il s'apprêtait à déchaîner sur l'Iran. Alors, évidemment, en expliquant que cette suspension est une victoire éclatante de sa diplomatie, on n'est pas obligé de le suivre. On peut croire, au contraire, que les Pakistanais et les Iraniens ont eux aussi contribué à faire en sorte que l'Iran ne soit pas détruite.
Oui, c'est
Bon, on peut d'abord, moi je pense que dans un premier temps, c'est faut se réjouir de ce cessez-le-feu et pas simplement parce qu'on on va payer notre essence moins chère à terme. Faut essayer de regarder un peu au-delà. Quelles étaient les conséquences de cette guerre? Je pense en particulier pour le Liban, même si l'affaire libanaise est plus délicate que l'affaire iranienne en fait dans l'histoire, parce que Netanyahou voudrait continuer son offensive au Liban Sud, et au contraire, le Premier ministre Sharif du Pakistan a expliqué que non, c'était un deal global et que ça incluait le Liban, le Hezbollah, et que tout le monde fait taire les armes. C'est ça qui est intéressant dans ce deal. Alors oui, Trump n'a pas accepté quelque chose qui va le mettre en position de vaincu. Donc il faut forcément qu'il trouve des arguments, et l'argument principal, c'est qu'il a fait réouvrir le détroit d'Ormuz.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est Trump qui a fait réouvrir le détroit d'Ormuz, ou dans le cadre d'une négociation tripartite, on a décidé que le détroit d'Ormuz serait rouvert.
Mais évidemment que c'est la deuxième version.
Voilà.
Mais pour Trump, il faut qu'il puisse claironner, et il faut qu'il y ait une victoire. Ce n'est pas possible, c'est pas dans son logiciel. Il peut pas imaginer qu'il a perdu, alors qu'en réalité, toute le caractère inflammatoire des propos qu'il a tenus les trois derniers jours montrait que il était au fond d'une impasse. Je suis assez surpris d'ailleurs que ces propos n'aient pas suscité plus de réactions. Il y a eu quand même des personnes de bon sens, je pense en particulier au pape qui s'est exprimé en disant que c'était inacceptable d'annoncer qu'on allait détruire une civilisation, mais on n'a pas eu l'impression que ça ne pouvait que ces mots-là or c'est des mots insupportables, enfin ce qu'il a promis. On s'est même interrogé, vous rendez compte quand même qu'hier la Maison Blanche a fait un communiqué expliquant qu'il n'était pas question d'utiliser la bombe atomique contre l'Iran, parce que des gens avaient interprété ça en disant qu'est-ce que ça, il va vitrifier l'Iran en fait, ça y est, il prépare. Donc la Maison Blanche a tenu à expliquer non, vous inquiétez pas, on ne va pas utiliser l'arme atomique.
Parce qu'un lapin est en train d'applaudir un lapin géant à côté du président des États-Unis est en train d'applaudir le président qui promet effectivement de détruire complètement un pays, que pour autant Donald Trump serait fou, ou que les États-Unis seraient dirigés par quelqu'un qui a un sens du spectacle très personnel.
Oui, non, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce décalage entre le show Donald Trump d'un côté et puis les négociations en coulisses. Et là, on est beaucoup plus sérieux et on revient. Et il y a des acteurs absolument fondamentaux. Moi, j'en vois trois en particulier. Le premier qui va forcément, à mon avis, rehausser sa stature, c'est J.D. Vance, le vice-président, qui là, pour le coup, a eu une attitude MAGA de bout en bout, fidèle à la promesse de pas de guerre, critique vis-à-vis de la guerre. Très intéressant, je recommande à nos auditeurs de lire le papier qu'a fait le New York Times hier, où tous les acteurs s'expriment sur la montée en guerre, comment on est arrivé à la guerre. Voilà. Et on s'aperçoit que tous, de Rubio jusqu'à John Ratcliffe, le patron de la CIA, Dan Kane, le chef d'état-major des armées, J.D. Vance, même Witkoff et Kushner disent non, on a tenté de dire à Trump de ne pas y aller. Et en fait, on a l'impression qu'en dehors de Trump et Netanyahou, c'était les deux seuls qui ont décidé d'y aller, tout le monde était hostile. Bon, chacun essaye un petit peu de sauver la face au vu de ce qui allait arriver, parce que c'est un papier qui date d'hier, mais c'est quand même très intéressant. Mais le personnage qui a été fidèle de bout en bout à la promesse électorale de Trump et des MAGA, c'est J.D. Vance, qui a pris les choses en main, qui a d'ailleurs été aidé quelque part indirectement par les Iraniens. Les Iraniens ont dit qu'ils ne voulaient plus de Witkoff et de Kushner. Alors, on va quand même les retrouver au Pakistan à vendredi, là, à Islamabad, ils seront là. Mais il y aura J.D. Vance. Et J.D. Vance, c'est un peu le négociateur que les Iraniens ont désigné dans l'autre camp. Ce qui montrait déjà en soi que la position de qui demandait la négociation était beaucoup plus du côté des Américains que du côté des Iraniens, qui eux, finalement, 47 ans de sanctions sur leur pays, des campagnes de bombes, finalement, un vieux pays habitué à une matrice façonnée autour du temps long, Finalement, il n'était pas prêt, il n'était pas, bon, l'Iran, on peut pas dire, a quand même subi énormément de dégâts dans cette guerre, mais si vous voulez, dans la mentalité iranienne, il y avait quand même cette idée que on pouvait continuer à résister, on pouvait continuer à se battre. Et or, ce qu'a démontré cette guerre, c'est une victoire du temps long sur les gens pressés, on va dire. Et Trump est l'homme pressé par excellence. Et là, il a compris que les marchés allaient l'envoyer au trépas, finalement, allaient lui faire perdre les élections de mid-term. Alors, il ne les a toujours pas gagnées, les sondages sont catastrophiques. Mais enfin, il a mis un terme à une gabegie, à ce qu'on a appelé dans l'histoire américaine un bourbier, des choses qui étaient tout à fait analysables à l'avance, hein. Des choses qui se sont déjà produites. Moi, ce qui m'a rendu dingue dans cette guerre, c'est de voir à quel point le monde politico-médiatique tombait dans le panneau, à nouveau, d'une espèce de guerre qui allait être courte, où la puissance américaine et avec elle les démocraties, le camp du bien allait triompher, des obscurs mollas, dont le régime oppressait son peuple. Alors, il y a un régime qui oppresse son peuple en Iran, ça c'est certain, mais le décalage avec le côté du bien, le côté du mal, etc., et de voir qu'on replongeait là-dedans en croyant que tout ça allait solutionner les problèmes au Moyen-Orient, c'est proprement stupéfiant, parce que on a vécu ça en Afghanistan, on a vécu ça en Irak, on a vécu ça dans des tas d'endroits dans le monde, ça n'a jamais fonctionné, ces histoires de faire pleuvoir sur les pays des tonnes de bombes et d'espérer que les gens se libèrent et qu'ils accueillent ceux qui leur balancent des bombes.
Voilà. Siavosh Ghazi nous disait hier que, donc à l'antenne de Radio Courtoisie, dans l'émission Restons Courtois, Siavosh Ghazi, donc ce journaliste francophone iranien qui est basé à Téhéran, que la population iranienne qui, effectivement, au tout début de l'attaque, accueillait les bombes en se disant ben, si ça permet de faire tomber le régime, tant mieux. Mmh. Au bout d'un mois, même plutôt de 40 jours de guerre, et surtout de déclarations outrancières de la part du président américain, en fait, ont tendance à se resserrer entre Iraniens contre l'envahisseur.
Ah, mais complètement. Je regardais même des artistes qui s'exprimaient sur Instagram, quelques artistes iraniens de là-bas qui ont fait des clips, des gens qui sont traditionnellement et presque naturellement dans l'opposition, qui tenaient des propos finalement absolument anti-Trump et contre ce qui était en train de se passer, de cette volonté de détruire totalement un pays, ce qui équivaut d'ailleurs à des crimes de guerre. Antonio Gutiérrez l'a rappelé, détruire les infrastructures d'un pays, c'est commettre des crimes de guerre. Donc voilà, donc c'est
même quand il s'agit des États-Unis et d'Israël.
Mais bien sûr,
il n'y a pas que les Russes.
Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, les Russes c'est plus facile parce que on est habitué, enfin, à cette rhétorique. Mais là encore une fois, voilà, on sort de cette séquence. On espère sortir de cette séquence, mais je pense quand même que c'est très sérieux. Il va y avoir l'épine Liban Sud qui risque d'être le truc le plus compliqué, à mon avis, d'arriver à faire en sorte que les Israéliens ne poursuivent pas leur offensive. Mais je crois que, au vu de la tournure des événements sur le terrain et de l'abandon globalement par Tsahal des espoirs de faire une zone tampon en allant jusqu'au Litani, vont faire en sorte que quelque part les armes vont dicter que les choses vont se calmer. Je l'espère, je le souhaite pour les Libanais, pour mes amis libanais, et voilà, que tout soit réglé globalement. Donc ce qui est quand même intéressant, il faut là le noter, c'est que l'Iran ressort de cette séquence meurtrie, avec beaucoup de destruction, avec beaucoup de morts aussi, beaucoup de ses dirigeants ont été éliminés, mais avec une présence permanente dans le détroit d'Ormuz, une prélévation apparemment de 2 millions de dollars payables en yuan par navire naviguant sur le détroit d'Ormuz, que l'Iran va partager, une cagnotte que l'Iran va partager avec le sultanat d'Oman, qui possède l'autre rive du détroit d'Ormuz, et que l'Iran, et ça je pense que ça a été un des déclencheurs d'acceptation, on va dire, par les États-Unis de ce plan, c'est-à-dire que l'Iran réclamait des réparations, et là l'Iran explique que cette taxe sur les navires va servir à réparer les dommages de guerre. Donc de ce point de vue, c'est plus acceptable pour les États-Unis que l'Iran finance quelque part elle-même les dommages de guerre et que les pétroliers américains et israéliens, quelque part, enfin tout ce qui est lié à leurs industries, puissent passer par le détroit d'Ormuz. Donc là on a une sorte de compromis qui a pu se faire, mais ce qui est proprement stupéfiant, si on va au bout, si les 10 propositions iraniennes sont acceptées par les États-Unis, c'est qu'il y a la levée de tout type de sanctions, la poursuite du programme balistique, il n'y a pas, le nucléaire n'est pas mentionné. Alors il y a une controverse, le nucléaire est mentionné dans la version en farsi, mais il n'est pas mentionné dans la version en anglais, donc il y a encore des points, et puis ça va être 2 semaines de négociations intenses, mais à partir du moment où il y a ce cessez-le-feu, et s'il est effectif, parce qu'il n'est pas encore effectif, hein, vous savez, j'ai déjà décrit...
Et on voit que Benjamin Netanyahou n'a aucune envie qu'il le devienne, en tout cas.
Non, mais Benjamin Netanyahou ne va pas pouvoir être tout seul à faire la guerre, vous voyez,
mais,
à un moment...
Pardonnez-moi, je vous interromps, est-ce que Benjamin Netanyahou pourrait être tout seul à faire la guerre contre le Liban?
Ça, c'est possible. Oui, il l'a déjà fait. En 2024, la guerre de 2024 qui s'est achevée en novembre par un cessez-le-feu et qui a d'ailleurs été cessez-le-feu qui a ensuite été violé plusieurs fois par Israël à plusieurs reprises. Non, le Hezbollah continue à tourmenter les Israéliens. Là, je pense qu'ils ont été surpris de sa capacité de résistance. Ils ont réussi à pénétrer et à établir une zone tampon de quelques kilomètres au Liban Sud, mais certainement pas jusqu'au fleuve Litanie. Et ils se rendent compte que la difficulté à continuer cette offensive est due au terrain, due à la ténacité du Hezbollah, à sa façon de combattre, à son armement qui est beaucoup plus important que ce qu'ils avaient imaginé. Donc bref, on est dans une campagne mal embarquée, encore une fois, toujours au Liban Sud. Hein. Je rappelle que Ehud Olmert, qui a eu à gérer une situation au Liban Sud en 2006, appelle le Liban Sud le marais. Voilà, donc ça ou le marécage. Voilà, donc c'est ça dit bien ce que c'est. Et là, la vraie promesse de dire on va mettre un terme définitif à la question du terrorisme du Hezbollah, eh bien, cette promesse, elle risque de ne pas être tenue. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai fait un débat sur le média QG avec Ronnie Broman, grand humanitaire devant l'Éternel et qui est israélien, qui expliquait que depuis qu'il est tout petit, il a toujours entendu, avant c'était avec l'OLP, etc., c'est toujours la rhétorique d'Israël de dire mettre un terme définitif au terrorisme, et qu'en réalité, il n'y a jamais de terme définitif, et ça recommence, et ça recommence. Et donc là, sur le Hezbollah, il y a de fortes chances que ça, rien ne soit réglé, et que ça ne va pas être l'armée libanaise, aussi faible qu'elle soit aujourd'hui, qui réglera la question du Hezbollah au Liban. Donc voilà, ce qu'il faut juste souhaiter simplement pour les Libanais, c'est qu'ils puissent vivre en paix sans avoir à subir une attaque de missile contre un immeuble en allant faire leur course à Beyrouth, comme c'est le cas aujourd'hui, et ou à mourir sous des gravats alors qu'ils n'avaient rien demandé à personne.
Mais n'oublions pas que évidemment c'est l'armée la plus morale du monde qui le fait, puisqu'ils sont prévenus à l'avance qu'ils doivent évacuer séance tenante, qui sommes-nous pour juger ce qui se passe? Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait 3 personnes qui allaient tirer leur épingle du jeu, donc J.D. Vance, on l'a bien saisi.
Alors il est premier ministre pakistanais, évidemment, Monsieur Sharif, qui lui, tout à coup, inscrit son pays sur la carte diplomatique mondiale, et du coup lui donne une prestance et une importance qu'il n'avait plus depuis un moment. Le Pakistan, dans l'actualité jusqu'à présent, c'était, il se signalait dans ses escarmouches avec les talibans, dans cette espèce de guerre larvée qui mène contre les maîtres de Kaboul, qui étaient ses anciens alliés, etc. Enfin, une sorte de conflit régional un peu obscur, son affrontement permanent avec l'Inde, qui fait la matrice pakistanaise, avec des affrontements qui ont eu lieu l'année dernière, il y a eu des combats aériens et autres. Voilà, donc le Pakistan paraissait comme ce pays obscur qu'on craignait un peu parce qu'il possède la bombe atomique. Ça, c'est un des éléments majeurs. Et là, tout à coup, à la faveur de ce premier ministre, il est devenu une plaque tournante de la diplomatie internationale, eut égard à ses liens anciens avec les États-Unis depuis la fameuse guerre contre la terreur et la chute des talibans en 2001, où le Pakistan a été sommé de choisir son camp, et il a choisi à l'époque le camp des Américains. Et donc, il a cette courroie de transmission avec Washington, et en même temps, il est complètement de mèche, c'est un allié principal, un des principaux alliés de Pékin dans la région, très important aussi le rôle de la Chine dans cette histoire, parce que c'est la Chine qui a fini par tordre le bras des Iraniens sur les derniers détails pour leur dire c'est maintenant, faut signer, hein, apparemment. Hein. Et donc ça a été donc ces deux personnages, le Pakistanais J.D. Vance, ont été en conversation permanente pendant que Trump menaçait d'Armageddon en Iran. Eux discutaient, on va dire, rationnellement, point, pied à pied. Vous avez d'autres pays qui se sont joints au Pakistan, qui ont été l'Égypte et la Turquie, qui ont pesé tout leur poids aussi dans ces négociations, deux acteurs aussi importants. C'est très intéressant parce qu'il n'y a ni les États-Unis ni l'Europe dans la négociation. C'est con, ça se fait. Alors si, il y a J.D. Vance dans l'histoire. Mais si vous voulez, autrement, ça se fait
Il n'y a Chine, pas Israël.
Voilà. Et Israël qui n'est pas consulté à aucun moment aussi. Ça, c'est un truc très important. Et alors, le troisième personnage, troisième personnage important pour moi, c'est Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui a été une sorte de visage de l'Iran pendant toute cette crise, qui a été quelqu'un d'extrêmement mesuré, qui était déjà un négociateur sur le nucléaire, hein, c'était l'interlocuteur numéro un de Witkoff et de Kushner, ils étaient en permanence, et ce dialogue-là a pu permettre de continuer à ce qu'il y ait une courroie de transmission pendant toute la durée de la guerre, même au pire moment. Et puis vous avez aussi, alors je pense qu'Araghchi a une personnalité beaucoup plus intéressante et beaucoup plus on va dire commercialisable à l'Ouest, en tout cas, et même face au monde, que Khalibaf, le Mohamed Khalibaf, qui lui est le chef du Parlement, qui lui est plus proche des gardiens de la Révolution. Il a été gardien lui-même, ancien pilote de chasse, commandant de l'armée de l'air iranienne. Bref, c'est plus un militaire. Mais donc ces deux personnages sont restés les deux visages, on va dire, un petit peu de l'Iran ouvert vers l'extérieur. Tout le reste, c'est du militaire pur et dur, du gardien pur et dur, façonné dans la guerre Iran-Irak des années 80, avec une matrice très réduite et des visées de combat jusqu'au boutiste. Donc, on a gardé ces deux personnages qui n'ont pas été éliminés par Israël, d'ailleurs, sous pression des États-Unis. Donc, je pense que on va les voir plus, et je pense que Araghchi sera un personnage qui va compter. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de le rencontrer lors de son dernier passage à Paris il y a deux mois. On avait été autorisé à faire un off avec lui et avec quelques autres journalistes spécialisés dans l'international. Et c'était un personnage extrêmement, quand vous faites des offs, vous arrivez à savoir des choses, à vous donner une idée de ce qui se passe, mais je l'avais trouvé incroyablement ouvert au niveau de ce qui se passait. Il nous avait raconté la guerre des 12 jours, comment ça s'était passé, ses relations avec Witkoff, etc., bien avant que tout ça sorte dans la presse. Et je pense que c'est un personnage qui a l'avenir aujourd'hui. Pour moi, ce sont ces trois personnages-là sont les grands gagnants de ce cessez-le-feu. Les perdants, quoi qu'il en dise, quelle que soit la façon dont il va mettre les choses en forme, ça sera Donald Trump. Et je pense Benjamin Netanyahou, qui risque de continuer son combat un peu seul, qui n'a pas été, vous l'avez noté, associé aux négociations, qui aujourd'hui pond un communiqué en expliquant qu'il approuve le cessez-le-feu en Iran, mettant des bémols évidemment sur la question du Hezbollah et sur la question du Liban Sud, mais à mon avis tout ça devrait rentrer dans l'ordre, et je pense qu'à partir du moment où Trump a été capable de faire ce pas gigantesque en acceptant cette situation dictée par l'Iran, parce qu'il faut bien reconnaître ce qu'est la réalité, pour éviter une crise encore plus importante, je pense que on va voir une configuration du Moyen-Orient se redéfinir, et même de l'ordre mondial aussi.
Alors, on se retrouve avec Donald Trump qui explique qu'il y a une victoire éclatante, il a réussi à faire rouvrir le détroit d'Hormuz, qu'il était seul à avoir réussi à faire fermer. Et donc c'est absolument fascinant. Il déclenche une guerre. Les Iraniens ferment le détroit d'Hormuz. Brusquement, l'objectif de Trump devient de rouvrir le détroit d'Hormuz. Le détroit d'Hormuz est rouvert. Et ça y est, Trump nous explique qu'il a quasiment déclenché la guerre uniquement pour que le détroit soit rouvert. On est quand même frappé de l'inconséquence du président américain et de la manière dont il a cru que tout le monde allait se ranger derrière lui, alors que toutes les analyses disaient depuis plusieurs mois et même plusieurs années qu'au contraire, ce que Donald Trump avait perçu, c'était la nécessité de se replier sur ce qu'il appelle son hémisphère, donc du Groenland jusqu'à la Terre de Feu, et qu'il avait au contraire acté le fait que l'Amérique était en récession, que son influence internationale était de moins en moins vive. Et là, au contraire, il a voulu tester avec un côté jusqu'au boutiste le fait que tout l'Occident allait se ranger derrière lui. Et au contraire, tout l'Occident a décidé que c'était la guerre des Américains et des Israéliens et pas du tout la guerre de l'Union européenne. Et donc là, au contraire, on a l'impression qu'il y a un gagnant, et même si ça me fait saigner les gencives de le dire, c'est aussi Emmanuel Macron qui réussit en fait à montrer qu'on peut lutter contre les États-Unis et qu'il y a une voix française, d'ailleurs assise sur quelque chose qui est la spécificité française. Elle a encore une armée contrairement aux Britanniques, elle a une puissance nucléaire contrairement à d'autres pays de l'Union européenne. Et donc la France est en train, peu à peu, et là aussi c'est atroce à dire, Emmanuel Macron joue bien avec les cartes que le destin lui donne pour une raison qui nous échappe, la France est en train de reconsolider une petite position internationale.
C'est tout à fait vrai. On a vu d'ailleurs un Donald Trump hurler contre les Européens pendant le conflit, les accusant quasiment de ses difficultés en Iran, en fait, en expliquant qu'on n'avait pas utilisé, on n'avait pas autorisé les Américains à utiliser nos bases, les bases de l'OTAN, que c'était pas normal, qu'on avait toujours été là pour aider les Français, les Européens, quand on avait besoin des États-Unis, mais que comme maintenant que les États-Unis ont besoin d'eux, ils sont pas là. Je pense que, alors, Emmanuel Macron a certes profiter, on va dire, de ce moment diplomatique pour se refaire la cerise, pour parler trivialement. Mais le grand gagnant en Europe, c'est quand même, à mon avis, Pedro Sanchez, l'Espagnol, qui, lui, a pris, dès le départ, une position hostile à la guerre, ce qui n'a pas été tout à fait le cas de la France, faut le reconnaître. On a hésité, on s'est plutôt mis en dehors du conflit qu'on ne s'y est opposé franchement. Et je pense que le Premier ministre espagnol, lui, a gagné ses galons de figure européenne et a été quand même la personne qui s'est dressée contre le conflit en Europe. Giorgia Meloni aussi, à un moment, mais pas au tout début. Donc, Keir Starmer aussi, d'une certaine façon, a donné du fil à retordre à Donald Trump pendant la guerre. Voilà, donc c'est peut-être l'Europe qui a compris enfin, et ça, moi, j'aimerais vraiment que ce soit le cas, qu'on cesse d'arrêter de considérer, de fonctionner sur ce logiciel où dans un coin de nos têtes, à chacun d'entre nous, il y a l'idée que les États-Unis sont notre grand frère. Il faut arrêter complètement ce... Donald Trump nous le dit, nous l'explique à longueur de journée. Bien, prenons-en acte, et prenons acte de cette guerre pour dire c'est peut-être le nouvel acte de naissance de l'Europe. Nous devons trouver notre propre voie, nous devons trouver notre situation par rapport aux autres qui ne demandent finalement qu'à dialoguer, qu'à avoir des relations avec nous. Ce que fait Giorgia Meloni, par exemple, au niveau diplomatique, très intéressante. Elle est allée à en Arabie Saoudite, elle est allée au Qatar, elle déploie une diplomatie assez agressive pour mettre son pays dans le concert international. Emmanuel Macron hérite d'une situation plus, vous avez raison de le souligner, mais il ne tient qu'à lui de profiter de ce moment d'affaiblissement des États-Unis pour faire redonner la voix de la France et lui donner aussi des capacités de médiation dans des conflits, ce qui est sa voie traditionnelle. La France est une puissance médiatrice qui, avant, avait cette possibilité. Je parle de l'époque de Jacques Chirac où notre président n'hésitait pas à intervenir et à défendre des valeurs, des points de vue, des alliés aussi. Hein. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus au front sur le Liban qu'on l'a été, mais aujourd'hui on a un boulevard, voilà.
On a un boulevard, j'espère que Emmanuel Macron va l'emprunter. Il nous reste à peine une minute. Ce cessez-le-feu, vous l'avez souligné, n'est pas encore activé. Malgré tout, on a l'impression que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est que ça s'arrête.
Mais je crois que tout le monde craignait comment les propos de Trump d'abord, et puis même le désastre que ça a coûté, que ça a causé, tant sur le territoire iranien, ça, mais on s'en doutait, mais sur Israël, sur la région, sur les pays de la région qui ont, il y a quand même un équilibre mondial qui a été secoué. Par cette guerre, certains pays se sont dit et vont avoir d'ailleurs beaucoup de mal à s'en remettre. Hein. Je pense que la paix, la prospérité basée sur la paix et sur la tranquillité qui était la matrice de pays comme les Émirats Arabes Unis ou le Qatar a été sérieusement remise en question par cette guerre et que ces pays-là vont se dire aujourd'hui, d'abord, on ne peut pas compter uniquement sur les États-Unis pour assurer notre sécurité, parce qu'en cas de conflit majeur, comme on vient de le vivre, ils privilégieront toujours Israël, et que on a beau sous-traiter notre sécurité, eh bien, ils nous ont un peu laissé tomber. Voilà, et ça, ça va changer beaucoup de choses. Ensuite, après, on va voir comment les choses vont s'installer, mais l'Iran devient un acteur sur la scène internationale, alors qu'on était parti pour un changement de régime au début de ce conflit et la fin du programme nucléaire. Rien des buts de guerre fixés par Donald Trump et Netanyahou n'ont été atteints pendant ce conflit. Voilà.
Merci beaucoup, Régis Le Sommier.
Merci.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et cette ligne droite, c'est maintenant avec Éric Doutrebande, fondateur de Tipolo, société de gestion de portefeuille indépendante, gérant des clients privés. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors, il est à nouveau évoqué des risques concernant le crédit privé non coté aux États-Unis et il y a des demandes de retrait massifs sur certains fonds. Qu'en est-il exactement ?
Alors d'abord, on parle de quoi ? On parle des prêts à la finance non bancaire qui se sont multipliés. Vous avez des prêts que tout le monde connaît, c'est des crédits à la consommation. Après, à côté de ça, vous avez des prêts, des crédits aux entreprises. Vous avez aussi des prêts liés à l'immobilier résidentiel, des prêts à l'immobilier commercial. Mais c'est développé depuis à peu près 2008-2010, des prêts, ce qu'on appelle à la finance non bancaire. Donc, finance non bancaire, on appelle ça aussi la shadow banking. On évoque ça aussi concernant les institutions financières non bancaires, les NBFI. Donc, vous voyez qu'on est dans un système qui est à côté du système bancaire. Vous avez des sociétés qui ont besoin de crédit pour pouvoir grossir, par exemple. Vous avez une croissance externe. Vous allez voir votre banque, vous pouvez aller voir votre banque, mais vous allez voir aussi des institutions non bancaires à qui vous demandez de l'argent. Ces gens-là, eux, ont réuni de l'argent dans le cadre de fonds très importants, des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, ils récupèrent de l'argent d'investisseurs, mais aussi depuis quelques années aux États-Unis et en Europe, de la part de clients privés. Vous avez cet argent qui arrive dans ces fonds, et ces fonds participent à des opérations de croissance externe et prêtent de l'argent à des sociétés pour qu'elles croissent. Évidemment, c'est une finance qui est un peu parallèle par rapport au monde bancaire, mais c'est aussi lié à toute la partie réglementation et tout ce qui a été mis en place par les institutions depuis maintenant une quinzaine d'années, et ça s'est déplacé. Alors les banques, que font-elles ? Ben, elles vont quand même prêter de l'argent à ces fonds d'investissement pour qu'elles fassent leurs opérations par effet de levier. Donc vous voyez qu'on est dans un monde qui s'est énormément développé. Alors, ça représente des montants non négligeables, puisque aujourd'hui, on parle de près de 1370 milliards aux États-Unis, 1370 milliards, mais avec une accélération de ces prêts au dernier trimestre de 348 millions. Ça représente à peu près 11,3% de la totalité des portefeuilles de crédit. Donc, ça sont les chiffres de Moody's. Alors, pourquoi on en reparle ? C'est qu'au mois d'octobre, il y avait eu des problèmes sur deux fonds de cette gestion et qui avaient des fonds d'investissement, Tricolor et First Brand, qui avaient des pertes non négligeables et donc qui ont eu des difficultés. Et là a été annoncé il y a quelques jours des difficultés sur une autre structure américaine très connue. Blue Hole Capital, qui a eu des retraits, des demandes de retrait, donc des investisseurs qui se sont dit on va diminuer notre risque sur la dette privée et donc on a besoin de retirer de l'argent. Ils voulaient retirer 5,4 milliards de dollars au premier trimestre 2026, ce qui représentait entre 40 et 20% des actifs de cette structure, et en fin de compte, la société n'a pu rembourser qu'un milliard. C'est-à-dire qu'il y a une tension sur ce secteur, surtout aux États-Unis, et évidemment, ça met à mal un petit peu le système. Alors après, il faut raison garder, et ça ne représente pas la totalité du système. Mais c'est quand même des prêts qui sont fortement développés.
Alors, et quelle est la situation en Europe de cette classe d'actifs, justement ?
Alors en Europe, il semble que ça soit un peu plus contrôlé, un peu moins important. Par exemple, en Europe, c'est 32% de cette dette est détenue par la Deutsche Bank. Donc ça représente, après, il y a, en fait, dans les actifs de la Deutsche Bank, il y a 32% qui sont dans les prêts. Il y en aurait 32% qui seraient concernés par ça, 28% chez HSBC, 12% chez BNP et 9% chez Société Générale. Donc, par exemple, sur Deutsche Bank, ce sont des prêts qui représentent à peu près 25 milliards. C'est 5% du total de bilan de la Deutsche Bank. Donc, on n'est pas en train de parler de 50%, mais quand même, c'est assez significatif. Et on a pu le voir que, par exemple, même François Villeroy-Gallo l'a rappelé récemment en disant attention, vigilance en Europe, mais attention à l'innovation. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les crédits, évidemment, ont été maintenant démocratisés et un client privé peut acheter des fonds d'investissement qui sont sur ses dettes privées. Et comme d'habitude, il y a des fonds qui seront bien gérés où il n'y aura pas de difficultés et des fonds qui seront avec trop d'effets de levier et avec surtout des sociétés qui, au final, iront peut-être au tapis et dont il y aura peut-être des problèmes sur le remboursement. Mais ce qui est important, c'est d'un peu comprendre ce qui se passe. On vous parle tout le temps de Apollo, Blackstone, KKR aux États-Unis. Eh bien, ce sont des acteurs importants aux États-Unis.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Éric Doutrebente, et à la semaine prochaine.
Bonne journée.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour, Gilles.
Bonjour Richard, bonjour Franck, chers auditeurs. Alors qu'on a appris le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis et la réouverture du détroit d'Ormuz, le Parisien a mis en une nos deux otages, Cécile Kohler, 41 ans, et Jacques Paris, 72 ans, qui ont pu quitter l'Iran après plus de 3 ans et demi de détention et 5 mois d'assignation à résidence à l'ambassade de France à Téhéran. On apprend ainsi que le couple a quitté l'ambassade de France à 5h du matin hier pour rejoindre la route frontalière Azerbaïdjan. Il devrait arriver ce mercredi en France. Et les journalistes du Parisien reviennent sur les faits qui se sont déroulés il y a 4 ans. Tout avait commencé par un voyage fin avril 2022, pendant les vacances scolaires. Cécile enseigne les lettres, Jacques est professeur de mathématiques à la retraite. Leur voyage était prévu de longue date, sachant que Jacques s'était déjà rendu en Iran. La famille Kohler reçoit des messages enthousiastes durant le séjour, comme des photos, puis plus rien. Jusqu'au 6 octobre, quand Téhéran diffuse alors une vidéo. Accusé d'espionnage, le couple est contraint aux aveux et on sait alors que le couple est séparé. Leur détention était assimilée à de la torture, confie maître Karine Rivoallan, l'avocate des familles. Mais pour quelles raisons sont-ils emprisonnés ? Mystère. Toujours est-il qu'ils ont été condamnés en octobre 2025 à respectivement 20 et 17 ans de prison. Le Parisien raconte leur détention et leur sortie de prison en novembre dernier, mais leur joie est amputée par mesure cette mesure d'interdiction de quitter le territoire. L'ambassade de France les accueille et leurs conditions de vie changent du tout au tout. L'avocate raconte qu'ils pouvaient se déplacer, appeler leur famille, vaquer à leurs occupations, comme la lecture, la cuisine. Un avant-goût de liberté, mais avec toujours l'inquiétude de rester là-bas. Alors je passe sur les événements qui se sont déroulés depuis l'offensive américaine et israélienne en Iran. On sait aussi, comme le souligne le Parisien, que le sort de Madiev Esfandiari, une Iranienne de 39 ans, condamnée fin février en France pour apologie de terrorisme, a pu peser. Alors Téhéran a longtemps lié le sort de Cécile Kohler et Jacques Paris à celui de leurs ressortissantes. Et de son côté, Georges Malbruno dans le Figaro dit que leur libération définitive paraît être le résultat d'un échange entre la France et l'Iran, probablement accéléré par les positions d'Emmanuel Macron hostiles à la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre la République islamique le 28 février. Alors, en vertu de l'accord conclu entre Téhéran et Paris, le gouvernement français s'est engagé en échange de la libération de ces deux citoyens français à assurer la libération complète de Madame Madiev Elfandiari et à retirer sa plainte contre l'Iran devant la Cour internationale de justice, écrit l'agence officielle iranienne IRNA. La France avait saisi en mai 2025 la Cour internationale contre l'Iran pour violation de son obligation de donner droit à la protection consulaire des deux Français. Interrogé sur cet échange, le Quai d'Orsay n'a pas répondu aux sollicitations. Alors avant même le déclenchement du conflit, l'entourage d'Emmanuel Macron affichait son hostilité aux frappes aériennes incapables de renverser le régime et de faire revenir les centaines de milliers d'Iraniens dans les rues pour manifester leur colère contre les autorités. Et cette posture donc a compté dans le retour en France du couple Colère-Paris. Alors sinon, vous lirez dans toute la presse ce que Nicolas Sarkozy a dit à l'audience hier, se défendant âprement pendant 8 heures, parlant pour la première fois de fautes commises par ses collaborateurs de l'époque, Claude Guéant et Brice Hortefeux, qui s'étaient entretenus avec l'entourage peu recommandable de Kadhafi et leur relation avec Ziad Takieddine, l'intermédiaire douteux aujourd'hui décédé. Vous lirez aussi bien sûr les gros titres concernant l'éventuelle offensive américaine en Iran qui n'a pas eu lieu au moins pendant 15 jours. Sinon, avec le retour du beau temps dans toute la France, je vous conseille de lire dans La Croix un dossier intitulé « Les nouvelles armes de la lutte anti-moustique », car à mesure que les cas de maladies transmises par les moustiques explosent, les chercheurs apprennent à mieux les connaître. Comme le souligne Frédéric Simard, un scientifique de Montpellier, c'est l'animal qui tue le plus d'humains sur la planète. 700 000 morts au total, mais le plus redouté en France est le moustique tigre, arrivé sur notre territoire par la Côte d'Azur en 2004, s'implantant un peu partout depuis et présent dans 81 départements sur 96. Ainsi, on apprend qu'une start-up montpelliéraine a entrepris de produire des moustiques mâles qui ne piquent pas et dont les cellules reproductrices ont été endommagées. Alors, une fois relâchés, ils s'accouplent avec des femelles qui pondent ainsi des œufs vides. Le but est de rendre le moustique au tigre inoffensif. Voilà, vous lirez cette passionnante enquête dans La Croix. Et puis, mercredi, c'est le jour de la sortie des films. Alors, on pourra voir sur les écrans un documentaire plutôt insolite intitulé L'œuvre invisible, et qu'Éric Neuf résume ainsi dans Le Figaro. Rien à la cinémathèque, nulle trace aux archives. Alexandre Tranois figure aux abonnés absents. Ce réalisateur a une particularité, aucun de ses films n'est sorti. Et pour cause, ils sont tous inachevés. Alors l'homme était un ami de Jean Rochefort, et depuis leur jeunesse, et il lui avait promis d'en faire la vedette de ses longs métrages. L'acteur en témoigne ici avec la verve goguenarde qu'on lui connaissait. Le scénariste Jean-Claude Carrière affirme avoir travaillé avec Tranois au cours d'un tournage tumultueux à Marseille. Et ajoute Neuf, personne n'a vu, alors je cite les titres, hein, Le Rempart de Gibraltar, 1963, Sans Salvador, 1964, ou La Fuite en Avant, 1967. D'autres projets s'accumulaient et ils restèrent lettre morte. Tranois envisageait même de diriger Belmondo, Ventura, Mastroianni, et il s'était rendu à Hollywood. Et là-bas, son producteur ne veut plus entendre parler de lui. Il interrompt brutalement l'entretien. Les contrats étaient signés, mais jamais honorés. Et puis, raconte encore Neuf, un jour, Tranois prend sa voiture pour se rendre à Cannes, présenter un de ses films au festival. La voiture dérape, il a un accident, et comme par hasard, les bobines brûlent dans le véhicule qui est en feu. Reste des croquis, des souvenirs des uns et des autres, écrit Neuf. Édouard Baird assure qu'il a été question pour lui d'incarner Tranois sur un canevas de Patrick Modiano. Voilà, ça s'appelle L'œuvre invisible et le film sort aujourd'hui. Et je vous dis à demain.
Zone libre.
Et rebonjour Louis.
Bonjour Richard, bonjour à tous, bonjour Maïlys. Alors croyez-le ou non, ce matin pour cette zone libre, je vais vous parler foot.
Ah, là, je nage dans des eaux absolument vraiment inconnues pour moi. Mais je vais quand même tenter, en tout cas, sous un angle un petit peu plus sécuritaire. Parce que vous savez, Radio Courtoisie est juste à côté du Parc des Princes et aura lieu ce 8 avril, donc aujourd'hui, un match qui opposera deux grands clubs, Liverpool et le PSG.
Oui,
et
j'ai garé ma voiture à Poissy, justement.
Oui, donc surveillez bien, surveillez bien et partez tôt, hein, évitez les problèmes. Et j'avais vu passer donc, un tweet de ce club, justement, et qui disait, donc, qui a été traduit en français, « Les fans doivent éviter les zones suivantes. Quartier de la Gare du Nord, quartier de Pigalle, centre-ville, Châtelet. » Alors, je ne vais pas rappeler évidemment les mésaventures qu'ont eues les Anglais quand ils sont venus en France pour affronter un autre club, notamment au Stade de France, hein, et oui, oui. Où on a eu toute cette affaire avec Darmanin qui s'est défendu comme il a pu. Hein, mais bon, voilà, on
qui a
vu.
Il a expliqué que les supporters anglais étaient des voyous totaux.
Et voilà, exactement.
Et qu'il y avait un nombre d'ailleurs de supporters de Liverpool en Seine-Saint-Denis qui a étonné tout le monde.
Et exactement. Donc, vraiment, c'est un tweet en tout cas qui a fait énormément réagir et qui a plus de 2 millions de vues. Et Éric Zemmour même a réagi en disant « Liverpool FC sait, tout le monde sait ». Voilà, donc ceux qui auront la référence comprendront. Et voilà, donc c'est quand même, d'en arriver là, c'est quand même incroyable de devoir demander à des supporters d'éviter certaines zones dans Paris, parce qu'évidemment, voilà, l'insécurité est vraiment flagrante. Et évidemment, depuis le Stade de France, des mesures doivent être prises par ces supporters anglais qui ont légèrement été traumatisés par leur expérience. Donc voilà, c'est quand même pas rien.
Et on espère évidemment que la préfecture de Paris a immédiatement démenti, a expliqué que tout était fait pour que, au contraire, Châtelet soit une place agréable.
Officiellement, aucune menace spécifique majeure n'est signalée par les autorités.
Très bien.
Mais bon, voilà, officiellement, on sait ce que ça peut donner, Paris.
Donc, qu'est-ce que ça peut donner officieusement, c'est ça la...
Officieusement, voilà, on peut creuser le sujet, mais écoutez, on verra après le match.
Et une menace majeure, j'aime bien. En fait, vous risquez juste de vous faire dépouiller et un par un et non pas d'être massacré en masse.
Si on pouvait avoir l'échelle des mesures pour savoir quand c'est majeur, mineur, moyen, cadet.
excellente intervention.
Et également le métro qui est conseillé pour des risques de pickpocket, etc.
Formidable. Vous, Maëlys, vous arrivez avec quelque chose d'un peu plus léger.
Oui, quelque chose d'un peu plus léger. Écoutez, Épinal, un jardinier, si je puis dire, au lieu de vendre tous ses hectares de production, eh bien, il propose aux habitants des villages alentours de venir cueillir leurs propres fruits et légumes sous un fonctionnement d'auto-cueillette. Voilà. Donc, écoutez, si vous êtes des Vosges, du coup, chers auditeurs, je vous suggère d'aller cueillir vos fruits et légumes là-bas, au moins, ça permet d'être tous des petits jardiniers en herbe, comme
chez
on dit.
Moi, on le fait. Hein, dans les Yvelines, on peut cueillir ses pommes.
Voilà, et à la ferme de Galie,
aussi,
où on a aucune intérêt. aucune
moi, je ne connaissais pas ce genre de choses. Enfin, ouais, dans le sud, ça ne se fait pas trop. Ok. Bon, ben, c'est génial.
C'est extrêmement physique hein, comme boulot. Hein, ça. Alors, je l'avais testé quand j'étais petit une fois, mais c'était fatigant de chez fatigant. Il faut aimer ça.
Bah, en fait, voilà. Là, on leur propose juste de récolter les 14 fraises dont ils ont besoin et pas de passer 4 heures assis par terre
en train de repiquer les tomates.
Mais, enfin, les laitues, pardon. Eh bien, merci beaucoup Maëlys, merci beaucoup Louis. Et nous allons évidemment prendre congé de nos chers auditeurs, puisque sur YouTube et sur X, c'est fini. Mais voilà, vous êtes 1,5 million à nous écouter, tous canaux confondus, chaque semaine. Vous êtes maintenant 560 000 à avoir signé la pétition pour empêcher la loi sur le nouvel antisémitisme de passer. Vous êtes un peu moins de 20 000 à nous donner. Voilà, faites les maths, comme on dit en anglais. Et donc, n'hésitez pas, soyez un peu plus nombreux à nous soutenir.
Voilà, il faut rétablir la balance, l'équilibre un petit peu. On ne demande pas autant, mais un petit peu quand même, juste un peu. 1 euro, 2 euros, 3, 5 euros, comme vous voulez, en fonction de vos moyens. Il faut que vous compreniez, chers auditeurs, que vous êtes les seuls financiers de votre radio. Et là, je m'adresse principalement à ceux qui la découvriraient aujourd'hui. Soutenir.rc.fr, c'est la meilleure façon de nous aider. Soutenir.rc.fr, vous faites un don en fonction de vos moyens. Et nous, on peut poursuivre la route. Merci d'avance.
Et nous allons tout de suite réentendre Christophe Boutin qui nous parlait ce matin du bilan des 10 ans d'enfer macronien que nous venons de traverser.
Ligne droite. Debout les Français.
Debout les Français avec Christophe Boutin, politologue, docteur en sciences politiques, professeur de droit public. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comme le disait Maïs Clozel, il ne reste plus qu'un an, mais on vient déjà de passer 10 ans en Macronie. car en effet, c'est le 6 avril qu'on fêtait la création, les 10 ans de la création d'En Marche, ce vaste mouvement de progrès, de joie qui a déferlé sur la France et qui nous a valu depuis 2017 les gilets jaunes, la guerre contre le virus, la guerre contre la Russie, la guerre contre la drogue, l'explosion de la dette et d'une manière générale, la paupérisation totale des Français. Christophe Boutin, quel est votre avis sur, honnête bien sûr, sur les 10 ans de macronisme que nous venons de subir?
Il faut distinguer deux choses, cher Richard. Il faut distinguer les 10 ans de macronisme et les 10 ans de parti politique En Marche, si vous voulez bien. Car les deux choses ne vont pas nécessairement ensemble. Si on revient sur les 10 ans d'En Marche, il ne faut quand même pas oublier que ça a été une réussite. Une réussite puisqu'on a créé un parti de toutes pièces, alors qu'on était persuadé que pour l'élection présidentielle, il fallait obligatoirement s'appuyer sur un parti déjà existant, sur une grosse machine de guerre. Eh bien là, grâce à des financements certes importants, on a réussi à créer cela, on a réussi à attirer autour d'Emmanuel Macron ce qu'on appelle la société civile, en fait, des jeunes gens qui voulaient bouleverser les choses, qui en avaient marre quelque part de cette pseudo-alternance droite-gauche qui se succédait au pouvoir sans rien faire. Bref, il y a eu un élan initial qu'on ne peut pas nier quand même dans la création d'En Marche, un bouleversement important du paysage politique. C'est après que les choses se sont gâtées. Alors, bien sûr, on va évoquer, comme vous le faites vous-même, je le comprends bien, pour soutenir le président Macron dans sa tâche, vous avez évoqué les problèmes rencontrés, vous avez évoqué la crise sanitaire, pardon, vous avez évoqué la crise des gilets jaunes, autant de choses que, bien sûr, personne ne pouvait prévoir à l'avance, personne ne pouvait protéger les Français, peut-être mieux qu'en étant en guerre en permanence, comme le fait le président Macron tous les jours. Après, c'est l'enlisement. C'est un parti qui ne réussit pas à s'ancrer territorialement, c'est un parti qui ne réussit pas à exister en dehors de la personnalité de son leader. D'ailleurs, je rappelle que En Marche, EM, pour Emmanuel Macron, voilà, ou pour En Manque peut-être pour certains conseillers d'Élysée, c'est autre chose. Mais voilà, on a ce parti qui est un parti... qui n'arrive pas à trouver sa place. Le changement de nom en Renaissance n'a rien changé, la transition par La République En Marche, entre-temps, n'a rien changé. Gabriel Attal, actuellement, semble vouloir encore changer le nom, ce qui ne changera rien. Le positionnement, à partir de ce moment-là, est un positionnement qui va évoluer, d'ailleurs, un peu vers la droite, puisque Emmanuel Macron avait bâti son parti sur les décombres du Parti Socialiste, et ensuite, les ralliements à droite font qu'il va avoir tendance à étendre ce qu'on va appeler le socle commun, le bloc central, à l'étendre un peu vers la droite, pour une efficacité dont vous avez dit fort justement qu'elle n'est pas prouvée dans un très grand nombre de domaines.
Alors, cette efficacité n'est pas prouvée. Alors, par exemple, Emmanuel Macron parle de réindustrialisation. L'usine Nouvelle a sorti il y a quelque temps la carte véritable de la réindustrialisation française. Donc les résultats sont mauvais. On crée moins d'industrie, on implante moins d'industrie, on construit moins de sites industriels. On nous a beaucoup parlé de souveraineté pharmaceutique, de souveraineté alimentaire. Le déficit commercial alimentaire arrive en 2025 pour la première fois depuis excessivement longtemps. Néanmoins, Emmanuel Macron martèle sans cesse que son bilan est bon et même qu'il est excellent et que toutes les décisions qu'il a prises ont déjà porté leurs fruits ou vont porter leurs fruits une fois qu'il ne sera plus là pour les réclamer.
Oui, on peut émettre une réserve, si vous voulez, sur un point, c'est-à-dire que les successeurs potentiels d'Emmanuel Macron, que ce soit Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ne semblent pas être dans la même logique de bilan magnifique et de réussite totale. Bien qu'ayant été eux-mêmes anciens premiers ministres, ils essayent actuellement de se désolidariser totalement, même si Gabriel Attal reste encore sous le choc qu'on lui a appris un jour à une table de Conseil des ministres qu'il allait y avoir dissolution le lendemain. Le bilan ne semble pas si bon pour les principaux macronistes. C'est quand même un problème. Alors, vous me direz, il y a toujours quelques fanatiques derrière. On peut toujours en citer, hein, des gens qui vont nous expliquer que Emmanuel Macron a sauvé la France d'une part, l'Europe d'autre part, le monde et peut-être même l'univers. Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur ce côté. Emmanuel Macron, alors effectivement, qu'un chef d'État défende son bilan, c'est tout à fait normal. Après tout, même des gens comme Jacques Chirac, qui n'avait pas de bilan, ont tenté de défendre quelque chose. Ici, il y a quand même des éléments qui sont, comme vous le disiez très bien, des éléments de fait qui viennent obérer cette légende dorée que cherche à créer le chef de l'État. Que cherche à créer le chef de l'État, d'ailleurs, de manière un peu curieuse, puisque, on le sait, il ne peut pas se représenter pour un troisième mandat. Donc, c'est bien un bilan du macronisme qu'il essaye de donner avec un échec.
Alors, merci beaucoup. Je rappelle que nous recevons Christophe Boutin. Tout à l'heure, au moment du grand entretien, nous recevrons Alexis Poulain puis Pierre Conesa pour parler de la loi Yadan. Et justement, Christophe Boutin, il y a une chose dont, semble-t-il, Emmanuel Macron peut s'enorgueillir, c'est le caractère sociétal de certaines de ses réformes. Il a complètement échoué sur la réforme des retraites, qui a été un grand moment de vie démocratique à coup de 49-3 avant d'être vendu aux socialistes par Guillaume Sébastien Lecornu. Mais il a réussi à constitutionnaliser l'avortement et avec un peu de chance, il va réussir à faire passer l'euthanasie. Est-ce que ce sera le seul point positif, avec énormément de guillemets, des deux quinquennats de Macron?
Alors, l'avortement, je rappellerai qu'il a juste fait inscrire dans la Constitution qu'il n'y a pas ici une modification de forme sur l'utilisation même et les possibilités qui étaient offertes par les lois précédentes. Pour l'euthanasie, effectivement, on voit bien qu'Emmanuel Macron a cherché ici à surfer sur des éléments qui avaient l'accord, a priori, d'une partie de la population. C'est tellement mal fait, d'ailleurs, qu'il est obligé de battre plus ou moins machine arrière sur la question de l'euthanasie. On le voit bien, il y a de très fortes critiques qui se développent actuellement sur le concept même, l'idée de développer cela de cette manière. Emmanuel Macron, ici, joue sur quoi ? Il joue sur le sociétal, il joue sur les sentiments. Il joue sur des éléments dont il espérait pouvoir obtenir une légitimité, car c'est quand même de cela qu'il s'agit à un moment, essayer de montrer qu'on a une légitimité populaire. C'est la grande difficulté pour lui depuis maintenant, je dirais à peu près 2020 ou 2022 au grand maximum. Là, cette légitimité est perdue, il n'arrive plus à arguer de sa position de chef de l'État, il est aux abonnés absents, le fait qu'il n'ait plus de majorité parlementaire fait encore diminuer son rôle. Il a essayé de jouer à tous les rôles possibles, le chef de guerre, toutes les possibilités offertes par la Constitution de la 5e ont été utilisées et ont tout échoué.
Alors, Emmanuel Macron, à un moment donné, sur notamment le site de l'Élysée, avait listé dans une rubrique ce qu'il appelait nos succès. Et il y avait notamment la reconstruction de Notre-Dame, la célébration des Jeux Olympiques de Paris et les 80 ans du débarquement. Voilà. Donc, on avait l'impression, d'un président totalement tourné vers le passé et faisant de chaque célébration festive une espèce de victoire personnelle. Cela fait 100 ans qu'il n'y avait pas eu de Jeux Olympiques à Paris, cela fait 1000 ans qu'on n'avait pas construit une cathédrale, disait-il. N'y a-t-il pas chez lui une espèce de sacralisation de l'histoire et de volonté de s'inscrire désespérément dans des choses qu'il dépasse et dont en fait il n'est pas responsable ?
On peut effectivement toujours utiliser les anniversaires, c'est toujours un élément. Maintenant, je vous rappellerai que dans chacun des éléments que vous avez cités, Emmanuel Macron a déconstruit en quelque sorte les choses. Il a reconstruit Notre-Dame, mais il veut imposer ses nouveaux vitraux. Il amène effectivement, pourquoi pas, si tant est qu'il les ait amenés, les Jeux Olympiques, mais la cérémonie a été une cérémonie que certains Français ont trouvé particulièrement choquante, et en tout cas qui ne reflétait pas vraiment l'imaginaire national, c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à la cérémonie du débarquement, Emmanuel Macron ici a continué à jouer politiquement, notamment à effacer totalement dans ce souvenir de la guerre, puisque on dépassait ici le simple souvenir du débarquement, a effacé complètement le rôle de la Russie.
Alors, maintenant, évidemment que les 80 ans du débarquement sont passés, que les JO aussi, et que Notre-Dame est reconstruite, d'une manière incomplète, bien sûr, mais c'est pas grave, elle est rouverte au culte. Et Emmanuel Macron met en avant Marseille comme étant le marqueur de son quinquennat, de ses deux quinquennats. C'est le laboratoire du macronisme. Et il y a un onglet sur le site de l'Élysée qui permet de vérifier à quel point ce Marseille de demain est une œuvre perpétuellement en train de réussir et avec des preuves effectivement tout à fait surprenantes du côté du trafic de drogue, de la violence et d'une manière générale de la décrépitude de la ville.
Écoutez, c'est une réussite, effectivement. Alors, il y a des réussites culturelles. Il a implanté un musée qui se veut un musée de la Méditerranée, qui veut aller rechercher les sources au-delà de la Méditerranée. Enfin, l'une des réussites de Mme Macron à Marseille, il faut bien le dire, c'est quand même le score du Rassemblement national dans cette ville. On voit bien ici comment la politique macronienne, lorsqu'elle est mise en œuvre sur le terrain, aboutit à des effets qui n'en sont peut-être pas ceux que souhaitait Emmanuel Macron tout à fait.
Alors, et est-ce que, voilà, on a, avec aucune mauvaise foi et juste en étant objectif, on a véritablement listé à la fois ce que Macron réclame comme étant ses victoires et on y a opposé juste les faits. Et malgré tout, y a-t-il quelque chose qu'on puisse sauver de ces deux quinquennats ?
L'élément qu'on peut sauver des deux quinquennats, c'est la volonté initiale, je dirais. La volonté initiale qui était... En fait, Emmanuel Macron a très bien senti les choses, ou les gens qui ont mis Emmanuel Macron au pouvoir ont très bien senti les choses. C'était cette lassitude profonde qu'avaient les Français face à cette pseudo-alternance qui ne changeait rien. C'est cette pseudo-gauche et cette pseudo-droite qui se succédaient au pouvoir pour faire sensiblement la même politique, notamment des politiques qui, en termes de souveraineté, étaient tout aussi défaillantes les unes que les autres dans à peu près tous les domaines. Il a senti qu'il fallait dépasser cela, et l'idée initiale donc, du macronisme, qui était de cette fameuse idée qu'on a dans Révolution, je vous rappelle que le programme d'Emmanuel Macron, c'est un livre qui s'appelle Révolution, ce qui veut quand même tout dire, cette fameuse idée de dépasser donc, les anciens partis politiques est quelque chose, je crois, d'intéressant à retenir du macronisme, parce qu'il y avait véritablement une attente qui a été... profondément déçu, une attente que le parti En Marche n'a absolument pas réussi et Renaissance plus tard n'a pas réussi à concrétiser, une attente qui, dans les politiques qui ont été menées, n'a pas été bonne. Voilà, effectivement, il y a une tromperie, je dirais, sur ce qui pouvait ou ce qui devait être fait. Mais ce qu'il faut retenir du macronisme, c'est ça. C'est cette, il y a en France actuellement une attente pour un langage nouveau politique, un langage qui soit un langage clair, qui dépasse en quelque sorte les langages convenus. Alors qu'effectivement, vous allez me dire, oui, mais Emmanuel Macron ensuite a fait du langage convenu en permanence, c'est exact, mais c'est ce qu'il faut, je crois, retenir du macronisme. Ce qu'il faut retenir aussi du macronisme, c'est la place politique que prend le bloc central en France. Et ce qu'il faut retenir du macronisme, enfin, si vous me permettez cette dernière remarque, c'est les dérives de ce bloc central, c'est ce qu'on appelle parfois l'extrême-centre, et un extrême-centre qui n'est pas moins attentatoire aux libertés que les autres dans les politiques qu'il peut mener.
Eh bien, merci beaucoup Christophe Boutin pour ce premier bilan du macronisme à l'occasion des 10 ans de l'anniversaire d'En Marche, et nul doute qu'on aura l'occasion d'ici 2027 d'y revenir souvent.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Et chers amis, c'est bientôt le temps de nous quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ces quasiment 3 heures de matinale. Et vous pouvez rester avec nous, bien sûr, après. Et vous pouvez aussi nous accompagner en nous soutenant.
Voilà, si vous voulez qu'on revienne demain et lundi et mardi et ainsi de suite, il faut aller tout de suite sur soutenir.rc.fr pour apporter votre contribution et nous permettre ainsi de poursuivre l'aventure, de poursuivre le combat et continuer à défendre vos idées. Soutenir.rc.fr pour les dons en ligne. Et si vous préférez envoyer un chèque, vous pouvez le faire en le libellant à l'ordre de Radio Courtoisie, l'envoyer au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et toujours un grand merci à ceux qui donnent et un merci d'avance à ceux qui vont donner.
Voilà, et vous pouvez revenir demain, vous pouvez revenir lundi, mais vous pouvez rester tout de suite parce que Radio Courtoisie continue.
Dieu et le monde, des mots dans quelques secondes sur Radio Courtoisie. Voix au chapitre d'Anne Le Pape, donc. À midi, le libre journal de la liberté de penser, dirigé par Clara Schneider, pour le chemin de croix de la Macronie. 14h, le libre journal des beaux-arts de Michel Colombin, au programme Maurice André. 16h, les répliques du nouveau conservateur de Paul-Marie Couteau. À 17h, le RC Mag de Jean-Étienne Posa, aujourd'hui le rôle du journalisme citoyen face aux médias subventionnés. 17h30, Restons Courtois, dirigé par Arthur de Vatrigan. 19h30, le libre journal de la résistance française de Nicolas Stocker. 21h30, enfin, le libre journal des débats de Charles de Meyer. Aujourd'hui, Franz Stock et l'aventure du séminaire des Barbelés.
Et demain, nous parlerons avec Michel Hamas de l'enfance en difficulté, avec Jean-Frédéric Poisson de la dictature du bien, avec Benoît Dumoulin de la laïcité.
Bonne journée et à demain 7h.